Alors, je vais quand même prendre quelques minutes pour présenter le thème de ce soir qui est la spiritualité et la lutte pour la survie. Alors, je commence avec une phrase d'Abdu Baha qu'il a dit lors d'une de ses causeries. Il dit, bon, je fais une traduction au pif parce que ça n'existe pas en français, c'est en anglais. Il dit, la terre est un seul pays, notre maison, notre chez nous. Et toute l'humanité, ce sont les enfants d'un seul Père, Dieu. Dieu nous a tous créés et nous sommes tous les objets de sa compassion, de son amour. Ainsi, si quelqu'un offense un autre, il offense Dieu. C'est la volonté de Dieu que chaque cœur se réjouisse et soit rempli de bonheur, que nous vivions ensemble dans la félicité et la joie. Et maintenant, la phrase qui m'a particulièrement aimé. Donc, il dit là, le souhait de Dieu, le but, mais il dit l'obstacle au bonheur de l'humanité, c'est des préjugés raciaux et religieux et la lutte compétitive pour la survie, ce qui donne l'inhumanité les uns envers les autres. Alors, donc, Abdu'l-Bahá, vous savez que les prophètes du passé n'ont pas énormément parlé des questions économiques. Ils ont parlé, mais Jésus, par exemple, dans la Bible, il a très peu sur des questions économiques dans la vie de Jésus. On pourrait dire, en fait, que les autres prophètes semblaient prendre pour acquis qu'il y aura toujours des riches et des pauvres et tout ça. Et ils disent, mais voilà, il a d'autres buts spirituels dans la vie, mais il a une sorte de séparation entre la vie spirituelle, proprement dit, les prières, les cultes, les exercices religieux et tout ça, et la vie économique d'une façon générale. Bien sûr, il avait des dons qu'il fallait donner à la religion pour aider les pauvres et tout ça. Mais dans la Bible, si la Bible nous donne un reflet authentique de l'attitude des gens, il y a toujours ce type qui avait dit « Je donne aux pauvres parce que Moïse a demandé, a commandé en fait, qu'on donne aux pauvres, mais je préférais voir de telles ordures balayées de la terre. » Donc, c'est Jésus qui raconte cette histoire, qu'il y avait ce type-là, il y avait, c'est l'histoire de la veuve pauvre, enfin, qui avait donné une petite somme au synagogue, et Jésus dit, elle a réellement donné, et l'autre type n'a pas vraiment donné parce qu'il n'avait pas l'esprit d'amour. Il a dit, je donne parce que Moïse m'a commandé à donner, tout ça. Donc, bien sûr, il avait la notion qu'il fallait être indulgent envers les pauvres et tout ça. Mais on ne peut pas dire qu'on a érigé les questions économiques au niveau moral. Tandis que dans la foi bahaï, les questions, l'injustice économique, ok, est maintenant élevée au niveau moral. C'est-à-dire, aux yeux de Baha'u'llah et selon les enseignements bahaï, exploiter économiquement son prochain, comme il dit, l'inhumanité les uns envers les autres, okay, dans la lutte pour la survie, exploiter économiquement son voisin, c'est un péché, pour utiliser un bon terme catholique. C'est un péché. C'est vraiment un mal immoral, c'est pas simplement une chose... Donc on ne parle pas de vol, n'est-ce pas? Je ne parle pas de vol, enfin tous les prophètes ont parlé de vol, je ne parle pas de l'esclavage, etc. Mais ça peut être l'esclavage. Mais l'exploitation économique des autres est, selon la foi bahaï, maintenant immorale. C'est immoral. Donc, c'est sujet à des lois morales. On ne peut plus séparer les questions économiques et les questions spirituelles. Mais ici, Abdu'l-Bahá fait référence à la lutte pour la survie. Alors, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour dire un peu d'où vient la lutte pour la survie. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est « mais les hommes sont égoïstes ». Et voilà, c'est la lutte pour la survie, parce que chacun veut plus que sa part, il veut autant que possible, et donc, naturellement, les uns exploitent les autres, etc. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça. En fait, la racine du problème, si on veut le voir de façon objective, c'est le fait que les ressources sont finis, sont limités, sont circonscrits. Et ainsi, et en plus, pour avoir accès à des ressources, il faut travailler. Il faut du travail pour avoir accès. Même si vous vivez dans une sorte de paradis, comme en certains coins d'Afrique ou en Océanie, vous avez des fruits qui poussent sur les arbres, mais il faut quand même cueillir les fruits, n'est-ce pas? Il faut quand même travailler pour manger. Et donc, étant donné que les ressources sont limitées, il y a nécessairement une certaine compétition pour savoir qui va contrôler ces ressources. Si on prend la position que je ne fais aucune lutte, que je fais aucun geste, soit je suis nourri par quelqu'un, enfin, ou soit je meurs, enfin, vous allez mourir, tout simplement. Parce que le travail pour la survie, enfin, pour vivre économiquement, fait partie nécessaire de la condition humaine, n'est-ce pas? On ne peut pas s'attendre à avoir sans travailler, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le fait du travail d'où vient l'exploitation, mais c'est la lutte pour le contrôle des ressources qui sont quand même limitées. Alors, vous êtes tous au courant du fait que Thomas Malthus, enfin un philosophe anglais, avait cru démontrer que la pauvreté d'une certaine proportion de la population était inévitable. Et son argument était essentiellement la suivante. Il avait dit, l'accroissement des ressources est linéaire. Enfin, je m'excuse, je suis un peu scientifique pour quelques secondes, ok? L'accroissement des ressources est linéaire. Mais l'accroissement de la population est géométrique, c'est exponentiel. Alors, nécessairement, tant que vous produisez toujours plus, chaque génération, si vous voulez, mais la population va toujours croître plus vite que l'augmentation des ressources. Donc, la seule question, dit Malthus, c'est qui va être pauvre? C'est inévitable qu'il y ait des pauvres, selon Malthus. Okay? C'est mathématiquement inévitable qu'il y ait des pauvres, qu'il y ait des laissés pour compte. Donc, le seul choix, c'est de savoir qui va être parmi les pauvres. Et donc ça, c'est la lutte pour la survie. Ça, et cette façon de voir les choses a été la façon classique pendant des siècles et même des millénaires de voir la question économique. C'est-à-dire, tout le monde prenait pour acquis qu'il avait des pauvres, qu'il aura toujours des pauvres. Enfin, même c'est dans la Bible, Jésus dit, les pauvres seront toujours avec nous, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'il voulait dire que vraiment on ne peut pas éliminer la pauvreté ou, parce que ce qu'il avait dit, si on le met dans le contexte, il dit, c'est quand Marie-Madeleine a oint ses pieds d'une huile extrêmement chère. Puis un des disciples avait dit, mais vous aurez pu vendre cette huile et donner aux pauvres. Et Jésus avait dit, les pauvres seront toujours avec nous, mais moi je serai avec vous seulement encore un petit temps, n'est-ce pas? Alors on ne peut pas vraiment dire qu'il voulait dire que la pauvreté ne peut pas être éliminée, mais qu'évidemment, le fait qu'elle donne ça ou non aux pauvres n'allait pas enrayer la pauvreté. Okay? Et puisque c'était lui, enfin, le messager de Dieu, le fils de Dieu, en prenant le principe que Madame a annoncé tout à l'heure, la vie spirituelle a quand même une certaine importance, et donc il voulait dire, quand même, ce qu'il a fait est beaucoup est acceptable, parce que je suis aussi important. La vie spirituelle est importante. Mais en tout cas, je m'éternise pas là-dessous, mais sachez que ça a été pris pour acquis pendant des siècles, tout au travers de l'histoire, que la pauvreté était inévitable et que la seule décision, c'était qui va être les pauvres. Et donc, ça, c'est ce qu'on entend habituellement pour la lutte pour la survie. Maintenant, la question, on pourrait débattre beaucoup cette question, est-ce que Malthus avait raison? Est-ce que Malthus avait vraiment raison? Est-ce que mathématiquement, c'était vraiment inévitable qu'il y avait des pauvres? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a toujours eu des pauvres. Donc, l'expérience, on pourrait dire, démontre qu'il avait raison. Mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis 150 ans, l'équation a complètement changé. Parce que les moyens de production sont maintenant exponentiels. Okay? C'est-à-dire, on peut disputer si vraiment les moyens de production étaient linéaires ou non, comme Malthus avait dit, une croissance arithmétique au lieu de géométrique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de doute. C'est exponentiel. Okay? Et d'ailleurs, pensez simplement à la chose suivante. Pendant toute l'histoire, le plus grand problème du point de vue économique, c'était l'esclavage, l'exploitation. D'accord? Et dans la forme le pire, qui est l'esclavage. Quel est le problème économique numéro un dans ce pays aujourd'hui? C'est le chômage. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Alors, le chômage n'a jamais, pendant 3000, 4000 ans d'histoire, le chômage n'a jamais été un problème. Le problème, c'était qu'il avait trop de travail, il fallait forcer les gens à faire le travail pour que ça roule, n'est-ce pas? Il fallait exploiter les autres, les forcer, les rendre esclaves, les forcer à travailler pour que la société tourne. Depuis combien de temps est-ce que le chômage devient un tel problème? Essentiellement depuis 50 ans à peu près, n'est-ce pas? Enfin, on peut voir le commencement dans la révolution industrielle à la fin du 18e siècle en Angleterre. Rappelons les étapes essentielles de ça. Il y avait d'abord la révolution industrielle. C'était les grandes machines, par exemple les machines à vapeur et tout ça, qui pouvaient produire, par exemple, des textiles, qui pouvaient tisser des choses à la machine, etc. Donc, qui remplaçaient un certain travail qui était autrefois fait à la main. Ensuite, il avait l'automatisation, n'est-ce pas? Bon, il avait d'abord l'industrialisation et l'organisation du travail autour de l'industrialisation. Et ça, c'est la chaîne de travail que Henry Ford avait inventée en 1905 à peu près. Ce qui faisait en quelque sorte que l'être humain devenait une partie de la machine. En quelque sorte, donc on recréait l'être humain comme partie de la machine. On avait d'abord inventé les machines. D'une part, ça soulageait un certain travail que les gens devaient faire autrement, qu'ils n'avaient plus besoin de faire parce que les machines le faisaient. Mais il fallait quand même quelqu'un qui opère les machines et tout ça. Et puis, ces gens-là n'étaient pas très bien payés, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esclavage industriel. Donc, l'organisation de travail, les chaînes de travail et tout ça, qui durent depuis à peu près 100 ans, a augmenté énormément la productivité, n'est-ce pas? En fait, par exemple, faire une voiture complète de la façon artisanale prenait à peu près 12 heures. Une fois que Henry Ford avait monté les chaînes de travail, on pouvait sortir une voiture dans moins d'une heure. Okay? La même voiture, finie exactement de la même façon. Donc, l'organisation du travail a augmenté la production. Ensuite est devenue l'automatisation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, d'abord, c'était les hommes qui devaient faire marcher les machines. L'automatisation, c'est les machines qui font marcher les machines. Okay? Et maintenant, depuis 25-30 ans, on assiste à l'informatisation du travail. Ce qui remplace même le travail intellectuel. C'est pas, on fait beaucoup de travail intellectuel que les hommes ont fait. Par exemple, je n'ai pas à vous dire, mais par exemple, les comptables. Les comptables, c'était un travail extrêmement respecté. Les comptables, c'était des gens considérés comme une haute profession, n'est-ce pas? Ben, c'est toujours une profession respectable. Mais les comptables, la comptabilité est devenue tellement complexe que les comptables ne font rien que de mettre un logiciel dans la machine et de poinçonner, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'ils font. Donc l'informatisation du travail a fait que non seulement le travail manuel, mais même le travail intellectuel est remplacé par des machines, par des ordinateurs. En tout cas, tout ça pour dire que la productivité, la puissance de production de l'humanité est maintenant quasiment infinie. C'est exponentiel, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, on ne peut plus dire qu'il est inévitable qu'il y ait des pauvres. Parce que, comme j'ai dit, le problème numéro un, c'est le chômage. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de monde pour travailler. Il n'y a pas assez de travail pour le monde. Dit ça d'une autre façon, il y a deux aspects de l'équation économique, la production et la distribution. Le capitalisme est très fort sur la production, mais très faible sur la distribution. Le socialisme était très fort sur la distribution, équitable, mais c'était un échec du côté de la production, parce que, comme nous savons très bien, les gens n'étaient plus motivés à travailler, parce qu'ils recevaient tous le même salaire, qu'ils travaillaient fort ou non, n'est-ce pas? Donc, le capitalisme réussit à motiver les gens pour travailler, okay? Mais la distribution des fruits de la production est loin d'être équitable, ce qui se montre par la concentration excessive de richesses entre les mains de moins en moins de personnes et la création d'un vaste réseau de pauvreté. D'abord, à deux niveaux. D'abord, c'est entre les pays ou les régions, c'est-à-dire il y a l'Ouest, les pays industrialisés, qui ont quelque chose comme, je pense que les pays industrialisés ont quelque chose comme 98% de toutes les ressources, contrôlent 98% de toutes les ressources sur la Terre, et le reste de l'humanité, à peu près deux tiers de l'humanité, se débrouille avec les 2%. Mais c'est pire que ça. Donc, il y a d'abord l'écart entre le nord et le sud, comme on le dit. C'est un euphémisme, n'est-ce pas, pour dire les pays riches et les pays pauvres. Et les pays pauvres sont en majorité. Mais aussi, au sein des sociétés, comme au Canada, aux États-Unis, il y a aussi un écart grandissant entre les riches et les pauvres. Il y a beaucoup de mesures de ça, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais je vous donne juste deux façons de mesurer ça. Il y a d'abord l'index de revenus, c'est-à-dire c'est le facteur entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires ou les plus hauts, qu'est-ce qu'il faut dire, revenus. Alors, dans les pays qui sont raisonnablement socialisés, comme la Suède ou la Finlande, je pense que le facteur, c'est quelque chose comme 3 ou 4, ok? Peut-être 6, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que le plus haut salarié gagne 6 fois plus que le plus bas salarié. Aux États-Unis, c'est quelque chose comme 15 ou 20. Ici, au Canada, c'est aussi quand même... Ce n'est pas aussi élevé qu'aux États-Unis, mais c'est quand même beaucoup plus que la Finlande, n'est-ce pas? Je pense que c'est autour de 8 pour le Canada. Donc, et cet index, ça augmente chaque année dans les pays industrialisés. Ce qui veut dire donc que l'écart entre les plus démunis et les plus nantis ne cesse que de croître. Un deuxième exemple, c'est la chose suivante. Les 60 hommes les plus riches aux États-Unis ont des avoirs, ensemble, 60 hommes, plus que la moitié basse de la population américaine. Donc, 60 hommes aux États-Unis ont autant d'avoirs entre eux que 150 millions d'Américains. La partie inférieure de la population américaine, ça c'est en Amérique, qui est le pays le plus riche. Okay. Alors, donc, je pourrais vous envoyer avec toutes sortes de choses comme ça, mais vous voyez très bien que ce qui manque dans le système actuel, c'est une distribution équitable. Et je vais vous juste dire pourquoi c'est comme ça. Parce que la théorie de base du capitalisme, c'est qu'on ne peut pas gagner de l'argent sans risquer. Ok? Mais si vous accumulez suffisamment de richesses dans notre société, vous pouvez gagner de l'argent sans risque. Parce que si vous avez une masse de capital suffisamment grande, en répartissant vos investissements, vous vous foutez du marché des bourses. Parce que si quelque chose baisse, c'est au dépend de quelque chose d'autre qui monte. N'est-ce pas? Ça, c'est la compétition. La compétition, c'est que s'il y a quelque chose qui est défaillant, c'est parce que quelque chose d'autre est dominant. Alors, en répartissant vos investissements, vous vous foutez du marché de bourse. Vous croyez que les grands banquiers ou les Bill Gates, ils regardent le marché de bourse, ils s'en foutent complètement. Parce qu'ils vont gagner peu, importe ce qui arrive. Donc, une fois que ce point critique est atteint, vous avez un jeu qui est essentiellement le suivant. La majorité des gens jouent un jeu où ils gagnent parfois et ils perdent parfois. OK? Ça, c'est tout nous. OK? Nous gagnons parfois, nous perdons parfois. Mais il y a une partie des joueurs qui gagnent toujours. Alors, vous faites l'extrapolation mathématique de ça. Vous allez voir que dans très peu de temps, si les gens gagnent toujours et tous les autres gagnent parfois, perdent parfois, mais finalement, ceux qui gagnent toujours vont tout avoir, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il est en train de faire. Tout ça pour dire la chose suivante. Il n'y a plus d'excuses pour l'existence de la pauvreté dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si on pouvait faire valoir l'idée de Malthus, que la pauvreté est inévitable, et donc je ne suis pas responsable si je suis riche. Ben, j'étais une des personnes qui a su se débrouiller. Je suis un nanti, je le mérite parce que j'ai travaillé fort pour l'avoir. Et bien sûr, il a des pauvres qui souffrent, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est Dieu qui a créé les choses comme ça, c'est inévitable, etc. Donc, il n'avait pas de responsabilisation des riches vis-à-vis des pauvres. Il se sentait aucunement responsable. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, la pauvreté qui existe dans le monde aujourd'hui est la conséquence des choix économiques fait par des êtres humains en connaissance de cause. OK? Ils savent très bien que leurs décisions vont rendre la misère dans certains pays, etc., etc. Ils savent très bien les conditions de travail au Mexique, en Afrique, en Asie et tout ça. Quand Nike a exporté toute son usine en Taïwan, je pense que c'est Taïwan ou Chine, je ne sais pas, ils savaient très bien qu'ils avaient un main-d'œuvre bon marché et tout, et tout, et tout, que les gens allaient travailler dans des conditions absolument inacceptables dans notre société, etc. On ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas. Et d'ailleurs, une autre statistique, vous voyez que parfois j'aime les statistiques, mais ça c'est vrai, ok, ça j'ai lu. Michael Jordan, à lui seul, reçoit plus d'argent de Nike, ok, que tout l'ensemble des autres employés de Nike, y compris le directeur général.
Mais parce qu'il a un pourcentage sur toutes les...
C'est-à-dire que parce qu'on considère que lui, il vend des Nike et que, bon, il raisonne de la façon suivante que Michael Jordan, d'accord, il reçoit beaucoup, mais ça vaut la peine, parce que si ce n'était pas pour lui, on vendrait beaucoup moins de Nike, et ils seront tous moins nantis, n'est-ce pas? Donc c'est à l'avantage de tout le monde qui travaille pour Nike qu'il a beaucoup de Nike qui se vendent. C'est le prix qu'il faut payer. Mais ça, c'est le résultat. Que Michael Jordan, à lui seul, gagne plus chaque année de Nike que tout le reste de la boîte, depuis le plus petit ouvrier jusqu'au directeur général. Alors, donc, à ce moment-là, comme j'ai dit, on voit que c'est vraiment des choix économiques. C'est vraiment des choix économiques. Autrement dit, on voit maintenant que Baha'u'llah et Abdu'l-Baha avaient raison en faisant de l'exploitation un cas de moralité, n'est-ce pas? Un cas de bien et de mal. Parce que le bien et le mal, ça tient à quoi? Ça tient à l'usage de l'homme de sa volonté, c'est-à-dire, c'est les choix qu'on fait. Et maintenant, les choix économiques qu'on fait ont pour but même de déposséder la majorité en faveur d'un certain nombre d'intérêts propres, d'un nombre restreint des gens. Et on peut prouver mathématiquement qu'avec la productivité, vous savez, nous entendons chaque année, il faut que l'économie croisse. N'est-ce pas, on parle de la croissance économique. Pourquoi? Pensez deux fois. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'économie croisse? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il croit? On peut très bien envisager ce qu'on appelle un steady state economy, c'est-à-dire une économie qui est cyclique et qui ne croît pas. Okay? Et quand on parle de croissance, on veut dire per capita, n'est-ce pas? C'est-à-dire s'il y a plus de personnes, l'économie croît par le fait que ces gens-là travaillent et tout ça. Mais quand on parle de taux de croissance et tout ça, ça veut dire toujours par tête, n'est-ce pas, per capita. Alors, tout simplement, on peut prouver mathématiquement qu'il a bien assez de productivité dans le monde aujourd'hui que chaque âme sur la terre pourrait bien vivre. Je ne dis pas richement, mais il pourrait avoir bien assez à manger, bien s'habiller, il pourrait avoir une vie convenable. Chaque âme chacun des 6 milliards d'âmes sur cette terre pour y avoir une vie absolument convenable si on avait un système de distribution économique qui était juste. Je vous donne un autre exemple qui vient de venir. Il y a quelques années, j'ai représenté la foi Baha'i dans une conférence sur l'environnement. Et il y avait une femme de l'Inde qui avait donné l'exemple suivant. Il y a des millions et des millions, peut-être même un milliard de personnes en Inde qui nourrissent leur famille par la pêche artisanale, n'est-ce pas? Un peu comme les gens faisaient de la côte de la Gaspésie il y a un certain temps, n'est-ce pas? Donc, c'est des gens qui ont des petits radeaux, n'est-ce pas? Des petits bateaux, en fait, de rien du tout. Ils vont près de la côte, n'est-ce pas? Ils font de la pêche, ils récoltent des pêches, des poissons, ils mangent les poissons, ils donnent à manger à leur famille, ils vendent le reste. Et puis ça leur permet de survivre, ok? Alors, il a une compagnie commerciale qui a convaincu le gouvernement de l'Inde de lui donner le droit de pêche dans ces zones-là. C'est les mêmes compagnies qui ont vidé la morue chez nous. Exactement les mêmes compagnies. Et le gouvernement de l'Inde a été d'accord, évidemment, il paye des immenses sommes au gouvernement de l'Inde pour avoir cette permission. Alors cette dame qui était un écologiste, elle avait dit, voici ce qui va être, et enfin moins d'une génération de toute façon, tous les poissons seront vidés de ces zones, n'est-ce pas? Parce que la pêche commerciale, en fait, vous savez, ils utilisent le sonar, le radar et tout ça, ben, les poissons n'ont pas de chance, n'est-ce pas? Ils peuvent vider la mer des poissons. Et à ce moment-là, tous ces gens-là qui actuellement sont indépendants, sont autosuffisants de point de vue économique, vont devenir dépendants de la société. Ils vont devenir définitivement pauvres, pas simplement des petits gagnants, mais ils seront entièrement dépendants de la société. Leur source de vie ne serait plus là. Et tout cet argent que les compagnies de pêche auraient donné au gouvernement de l'Inde serait déjà dissipé dans des gros trucs, construire des gratte-ciels à Nouvelle-Delhi ou n'importe quoi, des choses, tout cet argent serait dissipé pour des projets, enfin, sans valeur. Et donc, le gouvernement n'aurait pas les moyens de soutenir ces gens-là. Alors, voilà un exemple très explicite comment le capitalisme, dans son état actuel, crée la pauvreté. Ça crée la pauvreté. Ça crée la pauvreté. Ça crée la pauvreté en Terre-Neuve, n'est-ce pas? Quel est le taux de chômage en Terre-Neuve maintenant? Je ne sais pas.
La frise est 20%.
Oui, c'est ça.
Mais c'est la même chose qui s'est passée aussi à Haïti. Hein. Toutes les mers ont été complètement vidées de poissons.
Ça. Mais en fait, les Terre-Neuviennes, ils ne vivaient jamais très riches. Mais pendant des années, enfin, ils mangeaient bien, ils se suffisaient bien, n'est-ce pas, avec les poissons et tout ça. Et puis maintenant, voilà, vous avez 20% au moins de la population de Terre-Neuve qui est un fardeau sur la société. Et ça se reproduit partout, n'est-ce pas, ça se reproduit partout. Alors, donc, j'espère que je vous ai convaincu qu'Abdu'l-Bahá et Baha'u'lláh avaient raison, que la question économique est devenue, peut-être ça l'était toujours, mais il n'y a pas de doute que c'est devenu maintenant une question morale. Que c'est des choix moraux qui sont, ou des choix immoraux, enfin la qualité morale de choix, okay, que ce soit positive ou négative, qui est à la base de la pauvreté. Et donc, je pense que c'est une chose qui doit être reconnue et que de plus en plus de gens reconnaissent. Mais je dois dire aussi que même des gens, des intellectuels que je connais qui reconnaissent la chose, ne sont pas nécessairement prêts à sacrifier leur niveau de vie pour autant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il a des gens, il a des Mère Teresa, il a des gens qui sont d'accord de dire, mais voilà, je vais travailler pour aider les gens, et puis c'est juste assez pour vivre, ça me suffit, etc. Mais ce n'est pas la majorité, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que même des intellectuels, même des gens qui vont endosser chaque mot que j'ai dit ce soir, c'est même ces gens-là qui m'ont donné ces exemples et tout ça, mais si vous allez vers ces personnes-là, vous n'allez pas trouver qu'eux, ils sont d'accord de sacrifier leur niveau de vie, de vendre leur Mercedes et de vivre simplement, n'est-ce pas? Donc, le fond de la question, c'est évidemment l'égoïsme économique, l'avarice. C'est donc une question morale et spirituelle. Alors voilà, je pense que j'ai terminé.